Bonsoir. Les présidents congolais Félix Tshisekedi et rwandais Paul Kagame se sont rencontrés mardi 18 mars à Doha au Qatar dans le cadre d'une réunion trilatérale organisée par l'émir Cheikh Tamim bin Hamad Al Thani, a annoncé le ministère des Affaires étrangères du Qatar. Dans une déclaration, le ministère qatari des Affaires étrangères indique que les discussions entre les deux chefs d'État africains et l'émir ont porté sur la pacification de l'Est de la RDC. Félix Tshisekedi et Paul Kagame ont réaffirmé leur engagement pour un cessez-le-feu immédiat et inconditionnel. Pendant ce temps, les villes de Goma et Bukavu sous contrôle de l'FCM-23, plus d'un mois après, la vie reprend timidement mais au ralenti. L'économie locale est gravement affectée, l'argent circule peu, les banques et institutions financières restent fermées et les échanges commerciaux sont perturbés. Cette situation fragilise davantage le pouvoir d'achat des habitants et aggrave la précarité. Quelle analyse faire de la situation socio-économique dans les villes de Goma et Bukavu sous occupation de l'AFC M23? C'est le thème de dialogue entre Congolais de ce mercredi 19 mars 2025. Participe au débat Dadi Salé, docteur et spécialiste en développement pour les pays du Sud et enseignant dans plusieurs universités et instituts supérieurs de la RDC d'Afrique. Professeur, bonsoir.
Bonsoir, madame.
Aussi avec nous dans ce studio de Radio Kapi, Placide Nzilamba, secrétaire technique de la coordination de la société civile du Nord Kivu. Placide Nzilamba, bienvenue, bonsoir.
Merci, madame Kelly, et bonsoir à vous.
Fabrice Ngabo, expert en fiscalité et finance, il est en ligne. Fabrice Ngabo, bonsoir.
Bonsoir, madame.
À Goma, au Nord Kivu, vous nous suivez sur la 95.5. Et si vous êtes en dehors de la RDC, rejoignez-nous sur www.radiokapi.net. Sur DSTV, canal 867. Vous pouvez également suivre cette émission en direct sur la page Facebook, la chaîne YouTube et le compte X de Radio Okapi. Bienvenue à tous dans votre magazine.
Vous pouvez continuer à envoyer vos réactions à tech@radiookapi.net.
Plus d'un mois s'est écoulé, voilà, depuis que la ville de Goma est sous occupation des rebelles du M23 AFC. C'était le 27 janvier 2025, à l'issue d'intenses combats qui ont plongé la population dans l'incertitude et la peur. Aujourd'hui, quelle est la situation sur le terrain? Reportage de Denise Loukesso, rendu par Blaise Chindani.
Goma, siège des institutions provinciales, reste sous occupation rebelle. Une administration parallèle y a été mise en place avec la nomination d'un gouverneur, d'un maire et de nouveaux responsables des services de sécurité et de renseignement. Désormais, c'est cette structure de facto qui contrôle la gestion de la ville. Dès les premiers jours de l'occupation, des centaines de familles ont fui Goma vers les pays voisins Rwanda, Ouganda et Burundi, tandis que d'autres ont trouvé refuge dans différentes provinces du pays. Par ailleurs, la majorité des sites des déplacés ont été démantelés, obligeant leurs occupants à regagner leur village d'origine, parfois en dépit de l'insécurité. Un mois après, la vie reprend timidement, mais au ralenti. L'économie locale est gravement affectée, l'argent circule peu, les banques et les institutions financières restent fermées et les échanges commerciaux sont perturbés. Cette situation fragilise davantage le pouvoir d'achat des habitants et aggrave la précarité. Sur le plan sanitaire, les hôpitaux continuent d'accueillir un grand nombre de blessés de guerre. Les organisations humanitaires alertent sur les risques imminents de rupture des stocks de médicaments en raison des difficultés d'approvisionnement. En matière d'activité scolaire, les écoles ont réouvert, mais les cours restent perturbés. Côté transport, certains axes routiers sont de nouveau praticables et le trafic lacustre entre Goma et Bukavu a repris. Cependant, l'aéroport de Goma demeure fermé, isolant encore plus la ville. Face à cette situation, les habitants de Goma vivent dans une incertitude persistante, sans perspective claire quant à l'évolution de la crise.
Merci Blaise Chindani pour ce reportage. Placide Nzilamba, vous êtes secrétaire technique de la coordination de la société civile du Nord Kivu. Vous vivez au Nord Kivu. Alors, dites-nous, après avoir suivi ce reportage de Denise Loukesso rendu par Blaise Chindani, quel est votre commentaire?
C'est d'abord saluer les co-débatteurs avec lesquels nous participons dans ce débat et adresser notre compassion encore à notre population du Nord Kivu, de Gouma et de Bukavu, pour tout ce qu'elle est en train de traverser en tant que souffrance et atrocité liée à cette guerre. Commentant directement les portraits tracés par
notre reporter,
c'est-à-dire c'est le portrait qui relate réellement la situation de la ville de Gouma. Et actuellement, et même la ville de Bukavu, c'est la même chose. Vous savez, c'est des villes dépendantes l'une de l'autre. Et aujourd'hui, d'ailleurs, la ville prend l'allure d'un monstre ou d'une terre invivable parce que tout simplement, les atrocités atteignent un niveau plus inacceptable parce que tout simplement, il y a des actes qui se posent sur le terrain qui font à ce que la situation socio-économique ne soit pas gérable. Effectivement, avec cette rencontre, comme vous l'avez dit dans l'introduction, des chefs d'État pour tenter de trouver la solution, à notre niveau, c'est encourager, oui, les initiatives de paix, mais il faut quand même remonter les débats pour dire ces mêmes phrases ont été attendues, nous allons aller au cessez-le-feu et tout, les cessations des hostilités, ce sont des phrases déjà attendues. Je crois que la célérité devait être placée dans les actes que toutes les parties sont en train de poser afin de privilégier la paix, parce que tout simplement, les vies humaines se déciment du jour au jour à Goma et à Bukavu.
Alors, vous dites que le portrait que vient de brosser notre reporter, ou le tableau que vient de brosser notre reporter, Blaise Ndani, est vrai. Cette situation se vit même à Bukavu, au Sud Kivu, parce que c'est deux villes dépendantes. Est-ce qu'on peut dire que la paralysie économique est totale?
Il faut dire que la paralysie économique n'est pas totale, parce que tout simplement, il y a encore des villes du Nord Kivu qui paraissent en train de suppléer à un petit flux financier, notamment avec la ville de Butembo et la ville de Beni, qui sont encore sous le contrôle du gouvernement et où certains agents de l'État perçoivent quand même leur salaire et leur permettent aussi d'entrer dans les flux économiques un peu, dans le flux économique de la province, parce qu'il y a quand même quelques mouvements entre Butembo et Goma, mais malgré que c'est difficile, et d'autres détours même par l'Ouganda pour atteindre Goma. Mais ce flux-là ne saura pas prendre le coup de toute la province du Nord Kivu, d'autant plus que le siège de la Banque centrale se trouve à Goma. Et ça, c'est déjà un élément très capital sur lequel il faut dire que cette situation, à un certain moment, risque un peu de se bloquer, parce que si il arrivera que la rébellion continuera sur ce flanc-là, donc tout sera coupé et ça sera une vie difficile, une vie de misère. Vous savez qu'aujourd'hui, la population de Goma commençait à ancrer ses activités dans les circuits bancaires. Et pas mal de populations de la ville de Goma utilisaient les circuits bancaires comme moyen de paiement, comme moyen aussi d'accès aux capitaux. Et le peu d'argent qui est resté à Goma, je me dis, ce sont des peu d'argent qui étaient dans des shops de transfert d'argent, et peu d'argent qui étaient dans des coffres des associations villageoises d'épargne et de crédit. C'est ce peu d'argent qui supporte aujourd'hui la ville de Goma. Vous comprenez? Et que donc c'est difficile que même le circuit monétaire soit informel. Et quand le circuit monétaire est informel, voilà les risques encore de la création monétaire qui pouvait enclencher encore l'inflation. Et que donc, la zone peut encore revivre une dégradation de la valeur de la monnaie congolaise, parce que tout simplement, il y a des circuits qu'on ne contrôle plus. Alors, dès qu'on ne contrôle plus, et les opérateurs économiques ne sont attirés que par le profit, et que donc, il y aura une économie qui est incontrôlée et qui sera une économie suicidaire pour toute même la région.
Alors, est-ce qu'il y a des secteurs qui résistent un peu malgré les difficultés à Goma, plus précisément?
Bon, en tout cas, il n'y a pas de secteur qui résiste. Tous les secteurs sont touchés. Dès que le circuit monétaire est réduit, c'est que donc même le pouvoir d'achat, comme on l'a dit dans le portrait qui a été tracé par le reporter, donc toutes les affaires sont rétrécies. Et que donc, s'il y a faible pouvoir d'achat, c'est qu'on a faible accès aux capitaux. Et si on n'a pas accès aux capitaux, parce que pour avoir accès aux capitaux, il faut un gouvernement. Un gouvernement qui donne des garanties aux pourvoyeurs des capitaux, qui sont les banques. Alors, vous savez que ces banques-là sont kenyanes, autres sont je sais quoi, ils ne peuvent pas accepter d'abandonner les capitaux sous la responsabilité déjà avec qui ils n'ont pas de garantie d'assurance et de dire comment s'il advenait un danger, que comment ils vont récupérer leurs capitaux. Voilà un peu l'urgence. Parce que même la population elle-même, il arrivera un moment où elle ne saura pas même payer les factures des soins médicaux. Et il y a des enfants qui étudient dans les écoles privées, qui doivent payer les frais scolaires. Aujourd'hui, même les enseignants des écoles privées sont en train de pleurnicher.
Mais comment la population gère-t-elle le manque de liquidité? Parce que c'est devenu rare, hein? Nous avons appris à Goma et Bukavu. Comment la population gère-t-elle
Elle ne gère pas, elle est punie. Elle ne gère pas. La population n'a pas à décider sur le circuit monétaire. Et que donc, elle est punie, elle est condamnée à porter ce lourd fardeau. C'est pourquoi nous disons, ce qu'il nous faut les Français de chaque jour de dire, et cesser les faits et quoi, ils doivent changer de narratif pour rassurer cette population par des actes concrets.
Alors, en attendant le retour de la paix, est-ce qu'il y a des stratégies de survie que la population a développées?
Bon, ils ont développé d'abord ces AVEC-là, effectivement. Ces associations villageoises d'épargne et de crédit, c'est un des moyens de résilience devant le choc. Mais malheureusement, qui seront aussi butés à cette précarité de la liquidité sur les terrains? Parce que c'est l'argent qu'on amène dans les AVEC. Mais au moins le peu de liquidité qu'il y a permet à ce qu'on fasse au moins de peu d'activités qui sont en train d'alimenter les deux villes en petits produits, bon, dans un commerce plus réduit. Vous savez que même s'ils avaient l'argent, et aujourd'hui l'accès à certains produits de première nécessité pose problème, parce qu'il y a eu des pillages systématiques de boutiques et magasins dans la ville. Et que donc tout ça, ce sont des coûts que les opérateurs économiques aujourd'hui ne savent pas surmonter. Parce qu'il y a aussi d'autres opérateurs économiques qui avaient pris des crédits dans des banques qui devaient rembourser dans un délai bien déterminé. Mais les activités sont ralenties. Donc d'autres se préparent à être amenés devant les juridictions, être confisqués, et leurs enfants et leurs épouses, parce qu'ils n'ont pas remboursé les dettes. Donc, on prépare la population dans un chaos terrible, que ce soit sur le plan économique, que ce soit sur le plan social. Parce que certains enfants ne vont plus étudier, parce que les parents n'ont pas le moyen. Vous n'allez pas amener... Parce que d'autres commencent à vendre même les biens de la maison. Ils amènent son écran téléviseur pour essayer de suppléer aux besoins, parce que il y a une rupture brusque des emplois.
Professeur Dadi Saleh, vous êtes docteur et spécialiste en développement pour les pays du Sud et enseignant dans plusieurs universités et instituts supérieurs de la RDC et d'Afrique. Quelle analyse vous faites de la situation socio-économique dans les villes de Goma et Bukavu? On parle de Goma et Bukavu parce que ce sont les chefs-lieux des grandes villes, professeur.
Oui. Je félicite d'abord et je salue mon co-débatteur, mon éminent co-débatteur Placide Dinama, que je connais très bien. Et franchement, à plus de 99,9%, je suis d'accord. Mais je vais essayer de ne pas répéter un peu ce qu'il a dit. Je pense effectivement que tout en compatissant avec la population des Goma, des Bukavu, des zones des Bunagana, il ne faut pas oublier que Bunagana était déjà dans ces problèmes depuis très longtemps, des Bunagana et ailleurs, c'est une vie très difficile. Il y a une précarité structurelle maintenant. Ce n'est pas une précarité juste dans les sens opérationnels. Pourquoi? Parce qu'il faut bien comprendre que avant que cette situation de guerre ne puisse arriver, déjà, nous avions plus ou moins 80 à 83% des Congolais qui vivaient en deçà du seuil de pauvreté. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas vraiment une liquidité pour la grande population. Et que effectivement, malgré le fait du problème des banques, on a plus de 90%, si je ne m'abuse, on peut refaire les calculs, je n'ai pas vérifié avant de venir, plus ou moins 90% des Congolais n'ont pas accès, effectivement, aux services bancaires. Ça, c'est une chose. Mais cela étant, en termes de quantité, la grande masse monétaire passe par des grandes entreprises, ce qui fait qu'en termes plutôt des quantités monétaires, c'est effectivement la banque qui permet effectivement les grands roulements des affaires exactement, et que ce soit à Goma, que ce soit à Bukavu, que ce soit effectivement presque dans toutes toutes les zones en guerre. Donc, cette précarité structurelle ou les infrastructures, par exemple, comme je l'ai dit, j'ai devant moi vraiment un grand expert que je connais, donc on ne va pas tous compter dire, j'espère bien, ça va. Donc, au moins, la route entre Goma et Walikale était catastrophique déjà. Depuis. Donc ça n'a rien à voir avec la guerre. Les aliments pour arriver à Goma et transiter, c'était déjà une sorte de catastrophe. Et la route entre Goma et Beni et Butembo, c'était presque la même chose. Une très mauvaise route où effectivement l'insécurité battait le plein. Ça ne facilitait pas déjà les affaires. Mais il faut reconnaître un point très important, c'est que ça soit à Goma, que ça soit à Bukavu et pratiquement à l'Est, on félicite les dynamismes. Exactement, que tout le monde félicite d'ailleurs. C'est le troisième pôle économique de la République démocratique du Congo, dans ce cadre-là. Je dis bien plutôt commercial. Le troisième pôle dans le sens commercial. Parce qu'on a effectivement Kinshasa, et puis on a Matadi, et puis Butembo avec un peu l'Est dans ce cadre-là. Donc la circulation de la monnaie est énorme. Et vous allez bien comprendre que ces villes-là, même dans le sens électoral, ce sont des villes très peuplées. Donc vous avez Goma, qui environne déjà plus de 2 millions de personnes, mais avec la guerre et l'afflux, ça va, de déplacés, eh ben c'était une ville qui pratiquement, vous pouviez avoir 3 millions de personnes avec les camps de réfugiés et tout le reste. La même chose plus ou moins avec Bukavu, parce que beaucoup de gens qui ont fui Idju, qui ont fui un peu les environs Walung, où la guerre s'est planée déjà, allaient vers Bukavu pour un peu une plus grande sécurité. Donc c'était des villes déjà où les stocks n'existaient presque plus. Donc, quand vous n'avez plus vraiment des stocks stratégiques dans la ville, c'est-à-dire que vous vivez au taux du jour. Déjà, les gens vivaient au taux du jour. Donc, maintenant, c'était les taux du jour du taux du jour.
Et donc, le phénomène de déplacés a aggravé la précarité déjà dans les zones urbaines.
Tout à fait, exactement. C'est dans ce sens-là que la situation actuelle que mon co-débatteur a dépeint est tout à fait réelle et encore pire. Encore pire, pourquoi? Parce que vous aviez déjà la grande population des Rutshuru, de Nyiragongo, de Walikale qui cultivait, qui ne cultivait plus parce que des sacs, parce qu'elle était déplacée. Donc, il y a eu, même si nous avons des produits qui sont là, mais ce n'est pas en quantité voulue, parce que la population était effectivement dans des camps, ce qui fait que personne ne peut prévoir une grande production, n'est-ce pas, des denrées alimentaires et des produits. Donc, ça ne veut pas dire qu'il y avait totalement rareté. Non, il y avait quand même des gens qui passaient avec des motos, des Rutshuru jusqu'à Goma, même quand Goma était dirigé par les gouvernements congolais. Ces transactions existaient toujours. C'est la raison pour laquelle mon co-débatteur a si bien dit, même jusqu'aujourd'hui, il y a de l'influence de Beni sur Goma. Ah ben oui, parce qu'il y a ces mouvements-là qui passent même par Ouganda et Beni pour Goma, et de Goma jusqu'à Beni et Butembo, etc. Donc, il ne faut pas trop exagérer. La situation est catastrophique, mais ça n'a pas commencé seulement avec la guerre. La guerre vient montrer un peu cette face de précarité où ça devient invivable, que vous soyez riche ou pas. Parce que si vous êtes riche, où est-ce que vous allez retirer votre argent et quel est le business que vous faites? Alors, il y a un autre aspect important, commençant par la MONUSCO, puisqu'elle a engagé quand même beaucoup de gens, par les organisations internationales, où les personnels de toutes ces organisations internationales, à plus de peut-être 80%, je n'ai pas les chiffres exacts, mais selon nos analyses, à plus de 80% s'est déplacé. Or, c'est ces personnels-là qui étaient parmi les personnels des gens les plus nantis. Les plus nantis, c'est-à-dire qui faisaient circuler la monnaie dans les activités, effectivement, économiques. Mais nous avons aussi un autre grand aspect, c'est le personnel de l'État, que ce soit de la DGDA, que ce soit de la DGI, qui, des gens, entre guillemets, qu'on s'est dit qu'ils pouvaient avoir facilement l'argent, qui faisaient circuler et qui achetaient, effectivement, le bien. Ça va, quand quelqu'un vient avec des tomates ou bien des ail, etc., venant de quelque part, mais il a des clients. Et les clients, ce sont des gens, effectivement, qui ont la capacité d'acheter. Alors, les gens qui avaient la capacité d'acheter, la grande partie a sorti et s'est déplacée. Et effectivement, ils se retrouvent ici à Kinshasa, à Kampala, un peu à Nairobi, un peu partout, sauf à Goma et à Bukavu. Une bonne partie. Et la partie qui est restée, on sait tous, effectivement, que les gens aisés gardent leur argent pour raison d'insécurité, surtout à la banque. Alors, les banques ne fonctionnant pas, ça veut dire que cette monnaie-là ne circule pas. Donc, c'est tout à fait normal qu'il y ait précarité d'une façon aiguë. Mais on a des exemples un peu simples. Selon certaines recherches qui sont affichées d'ailleurs par la radio Capi, ça va, en ligne, ça va, et un expert en économie qui l'a si bien dit, 75% des activités majeures, ça va, de l'économie des Goma par exemple, ont été pillées. C'est-à-dire, le temps que ces entreprises-là puissent se refaire, c'est difficile. Parce que ces entreprises-là ne sont pas en confiance pour l'instant. C'est-à-dire que la production a diminué. Qu'on le veuille ou pas, la production a diminué de 75%. Et certaines personnes, certaines entreprises qui essaient de reprendre, c'est franchement pas plus de 50% de ces 75%. Mm-hmm. D'une façon, prenez par exemple la Bralima. Eh ben, on constate aujourd'hui que, ben, avec déjà Bukavu, ça va, parce que là où on a des chiffres un peu plus clairs, ben, la Bralima ne fonctionne pas. La bière vient effectivement du Rwanda, etc. Et effectivement, le Rwanda n'a pas la capacité de servir plus de 80% de bière ou bien des sucrés et dans la ville de Bukavu et dans la ville de Goma. C'est-à-dire que ces business-là, les produits ne peuvent pas être disponibles.
Alors, il faut trouver vite des solutions pour que la vie redevienne normale, pour mettre fin à cette guerre.
Il y a des solutions déjà palliatives. Pour l'instant, parce qu'il ne faut pas penser qu'il n'y a pas de solution. Une des premières solutions qui n'est pas une très bonne solution pour l'économie congolaise, ça va, eh ben c'est le Rwanda. Et pour l'instant, effectivement, le Rwanda est aussi frappé. Ça, on a oublié de le dire, hein, je souligne ça avant d'aller vite vers les solutions. Exemple, ça a été prouvé par la viande, ok. Les Rwandais qui participaient, peut-être il y a des chiffres qui disent 100 vaches dans l'abattoir du Rwanda, et qu'effectivement, à plus de 70%, ça venait à Kinshasa, ça venait un peu partout, en transitant par Goma. Dans ces
là,
sens.
Le Rwanda ne s'est plus écoulé sans
marchandise. Là, le Rwanda ne s'est plus écoulé, donc ça touche aussi le Rwanda. Uh-huh. Donc ce que nous disons ici touche aussi le Rwanda, positivement et négativement. Là, c'est négativement. Il y a des produits maintenant qui sortent du Rwanda, qui sortent de la Tanzanie, qui sortent de l'Ouganda, et qui arrivent maintenant à Goma. Pour l'instant, ce sont ces produits-là aussi qui contribuent, comme vous l'avez dit, un peu à une de pistes de solutions. Et je répète, ça n'a rien à voir avec nécessairement la guerre.
Merci.
Même avant la guerre, c'était le cas.
Merci, prof Dadi Salé. Fabrice Ngiabo, vous êtes expert et fiscaliste. Vous êtes expert en fiscalité et finance. Quelle est votre lecture par rapport à la situation socio-économique que vit Goma aujourd'hui? Bon, je dirais Goma et Bukavu. Fabrice Ngiabo, est-ce que vous êtes en ligne, Fabrice Ngiabo? Fabrice Ngiabo, ouvrez votre micro, s'il vous plaît. On ne vous entend pas.
Allô, madame. Allô, oui. Madame, vous me suivez?
Oui, ça va maintenant. Alors, c'est quoi votre lecture sur la situation socio-économique dans les villes de Goma et Bukavu?
Bon, je tiens d'abord à saluer les co-débatteurs, les professeurs
la société
et notre camarade qui est encore qui est au studio. Alors, je voudrais d'abord exprimer ma compassion à l'endroit de la population de Goma, Bukavu, toutes ces autres localités et villes sous occupation du Rwanda aujourd'hui. Alors, je pense qu'il sera malaisé d'aborder une telle question sans d'abord revenir sur les causes au fond de cette crise. Alors, avant d'en venir aux conséquences de la situation sociale, socio-économique que traverse la population, je dois d'abord dire que, de mon point de vue, cette crise commence un certain 28 octobre 2019, où, on doit le dire clairement, le président de la République accepte de manière très simple de signer une feuille de route avec le M23, un mouvement qui était défait sous le parrainage du Rwanda. Alors, tout est parti de là, et cela, ça fait partie d'un certain nombre d'erreurs stratégiques et, à mon avis, gravissimes commises sous le président Tshisekedi. Et aujourd'hui, nous sommes en train de vivre les conséquences. Et bon, voilà, nous devons un moment aussi nous assumer. Alors, je ne vais pas m'attarder là-dessus parce qu'il y a plusieurs options qui sont sur la table, notamment sur le plan
diplomatique.
Sur le plan international déjà. sur le plan diplomatique au niveau international, il y a des efforts énormes qui sont fournis, notamment les dialogues qui est envisagé et qui, de mon point de vue, apparaît comme une solution certes rapide, mais une solution éphémère qui n'est pas durable. Parce que la solution durable reste la solution militaire. Or, nous n'avons pas encore une armée qui soit capable de nous placer à ce niveau-là. Et donc, je pense qu'il faut se saisir de cette opportunité diplomatique en l'étant qu'on réorganise notre armée pour qu'on soit en mesure de rétablir la dignité des Congolais qui a été foulée aux pieds par le Rwanda. Alors, j'en viens maintenant à la situation socio-économique. Les experts qui sont là ont brillamment expliqué les niveaux d'évolution de notamment de la masse monétaire dans cette partie. Je ne vais pas les contredire de ce point de vue-là, mais juste mettre un petit bémol là-dessus, parce qu'il y a beaucoup d'implications financières et fiscales dans cette guerre. Premièrement, vous savez, notre économie est à plus de 80% une économie informelle. Ça veut dire que la majorité de la population congolaise garde son argent à la maison, sous les matelas. Alors, la situation que nous traversons aujourd'hui crée certes des difficultés par rapport à l'approvisionnement en termes de capitaux auprès de la population, mais cette situation... elle sera plus dramatique, les conséquences seront plus dramatiques si cette situation, elle perdure. Voyez-vous, elle perdure parce que vous avez des entreprises entières qui ont été pillées. Voyez-vous, ça fait présentement, elles ne sont pas en train de produire. Alors, si cette masse monétaire en circulation est partagée entre les agents économiques qui, initialement, n'utilisaient pas les circuits bancaires et les circuits classiques, et également avec la population qui évoluait dans les circuits normaux, dans les circuits classiques, et que ça perdure, nous allons atteindre un moment où il y a des coins entiers qui ne seront pas approvisionnés en liquidité, et la crise va s'accentuer. Alors, nous devons aussi nous rappeler que... aujourd'hui, c'est vrai, toutes les langues se délient parce que c'est Goma et Bukavu qui sont tombés. Mais rappelez-vous que depuis 2022, que Bunagana est tombé, j'aurais bien voulu voir le président de la République et toutes les autres forces aujourd'hui qui se sont levées, se lever déjà en 2022 où la ville de Bunagana était tombée. Parce que ce qui s'est passé, c'est quoi? Sur le plan financier et fiscal, le M23 et le Rwanda, on doit le dire clairement, ont eu le temps à se financer parce qu'il y a une frontière là-bas où des recettes fiscales et non fiscales sont perçues. Maintenant, depuis 3 ans et plus de 3 ans que Bunagana et les autres localités, y compris aujourd'hui maintenant la ville de Goma, Bukavu, sont sous l'administration rwandaise du M23. Mais dites-moi, qui perçoit les impôts, droits, taxes et redevances qui sont... acquittés dans ces milieux-là, ce sont les ressources qui bénéficient à cette force étrangère hein, pour qu'elle soit capable de recruter davantage des éléments de troupes et qu'elle soit capable de les payer, de les motiver et même de corrompre des brebis galeuses dans notre armée qui ont favorisé la tombée de plusieurs localités. Et donc, je pense que la léthargie qui a été observée et l'inaction qui a été observée dans les chefs du gouvernement congolais ont favorisé justement le refinancement. Rappelez-vous qu'avant que le M23 fasse l'assaut sur Goma et Bukavu, cela a pris plus de 2 ans. Et donc, le mouvement a pris le temps de se refinancer dans les milieux initialement occupés, et ça fait qu'aujourd'hui, nous nous retrouvons dans une situation où le gouvernement n'est pas capable de rétablir par la force la paix dans cette partie-là, parce que nous n'avons pas agi à temps.
Alors Fabrice Rangabo, quel pourrait...
Nous avions même demandé au gouvernement
de fermer les frontières entre la RDC et le Rwanda pour éviter à ces mouvements de M23 de se refinancer. Alors, ce qui s'était passé sur le terrain, c'était quoi? Vous avez les routes qui lient le centre de Nord Kivu, donc le centre de le Goma, à l'arrière province, qui était coupé, et des produits étaient cultivés là-bas, ou d'autres fabriqués là-bas, ils devaient contourner par Goma, par le Rwanda, pour entrer par la frontière qui était encore ouverte. Et donc, le gouvernement, je pense, n'a pas pris la hauteur de sa responsabilité, n'a pas vu ou prévu les dangers qui planaient sur nous. Alors, et aujourd'hui, je pense qu'il est tard de prendre un certain nombre de décisions.
Alors, très brièvement, Fabrice Ngabo, quelles pourraient être les conséquences à long terme de cette crise économique sur le tissu social et le développement de la région?
La première conséquence, c'est que d'abord, il y a la pauvreté qui est en train de s'aggraver. Vous savez, il y a une étude qui a démontré récemment que 45% de la population de ces zones-là, chez les enfants de moins de 5 ans, connaissait un problème de malnutrition aiguë. Et là, c'était sous l'administration du gouvernement légitime, légal. Maintenant, imaginez, pendant cette période, quelle sera la tendance de cet indicateur-là. Donc, nous avons une population d'abord qui vivait de manière précaire et qui fait maintenant face à des déplacements massifs et qui fait face à une situation où des entreprises qui fonctionnaient encore dans les milieux ne fonctionnent plus. Et donc, il y a la première conséquence qu'il y a pratiquement un plan de suicide social par la crise économique, n'est-ce pas, qui est en train de frapper durement cette population. Ça, c'est un. Mais des deux, il y a aussi un désespoir qui se lit sur le visage de la population, parce qu'on a l'impression que il y a un plan d'extermination de la population. Cela a été signalé ici. Dans les villes de Goma, Bukavu et les autres localités sous emprise du Rwanda, c'est chaque jour qu'on ramasse des corps sans vie. C'est chaque jour que les gens sont tués. Il n'y a pas de justice. Pendant la journée, la population est abattue, à bout
de bras. On vous redonne la parole. Fabrice Ngabo, on vous redonne la parole.
Les sont venus libérer la population.
Juste le temps pour nous
c'est une situation dramatique et
de donner la parole aussi aux auditeurs qui sont très très nombreux à appeler sur notre standard et même les internautes qui nous suivent sur X et sur notre compte X, compte X de Radio Capi, et sur notre page Facebook. Joseph Kiabuka, depuis la cité de Kamiji, estime que la guerre n'est vraiment pas une bonne chose. Le pasteur Justin Matadi Matondo, la population vit dans la peur et insécurité totale. Personne ne peut à ces instants risquer à investir dans un domaine quelconque tant qu'il y a une administration parallèle ou non étatique. Voilà, Papy Alfred qui pense qu'il faut juste que nous puissions nous organiser. Bertrand Molindois pense que cette guerre a aussi fragilisé, a aussi l'objectif de fragiliser l'économie congolaise avec les pillages des différentes sociétés telles que Bralima et autres. Bukavu et Goma se voient davantage inondés par les produits rwandais, notamment la guerre. On va ouvrir notre standard pour prendre ces auditeurs qui sont nombreux, comme je l'ai dit, à appeler direction Bukavu, Sud Kivu, pour écouter cet auditeur.
Maître Ulimwengu Kitungano Joseph, depuis la ville de Bukavu. D'aucuns ignorent que depuis l'arrivée du mouvement M23 à Bukavu, toutes les activités sont suspendues jusqu'à présent. Les banques, les ONG locales et internationales, ainsi que les écoles et instituts supérieurs et universités, tous ont été obligés de fermer leurs portes. Une situation qui cause une crise économique dans la province. Sur les marchés, il y a hausse des prix des denrées de première nécessité, la nourriture. nourriture. Par exemple, actuellement, un sac de farine de maïs qui était à 29 000 francs congolais, actuellement se vend à 35 000 francs. Et un sac de braise qui était à 60 000 francs congolais se vend à 90 000 francs, voire 100 000 francs congolais. Les marchés fonctionnent à pas de tortille. Beaucoup de commerçants craignent d'étaler leurs marchandises malgré l'appel fait par les autorités sur place à Bukavu de reprendre toutes les activités. L'argent n'est pas en circulation. Les autorités qui sont sur place à Bukavu promettent de régler toute cette situation pour que la vie revienne à la normale et que toutes les activités reprennent, mais cela reste encore à observer.
Alors, brève réaction, vraiment réaction, Placide Nzilamba.
Ça fait rire quand j'entends l'auditeur dire que les autorités ont dit qu'il faut faire tout pour régler tout ça.
Mais parce bien que... sûr, les autorités ont en premier. Hein.
Ça fait rire, vous savez que...
les autorités ont promis de rétablir la paix dans cette partie du pays.
Vous savez, il s'agit, on parle de l'économie. Et l'économie est une question qui marque une souveraineté d'un État et le pouvoir d'un État. Et que donc ceux qui ont le contrôle sur l'économie, c'est ceux qui ont le pouvoir et l'impérium du pouvoir public. Et que donc le circuit économique est régulé ici à partir de la Banque centrale et le ministère de l'économie et tous les autres ingrédients qui entrent l'État. Et que donc vous avez vu l'État prendre une décision sur la zone pour dire tous les biens qui passeront par telle douane, je crois, la grande barrière, petite barrière, douane Ishasha et Bunagana, seront déclarés des biens qui se retrouvent sur le sol congolais état de manière frauduleuse. Donc, vous comprenez, ça complique la situation. Et que donc, pour nous, c'est dire, on est en train de punir cette population. On ne doit pas prendre ça à la légère et dire, on va régler la situation. Comment? Parce qu'on n'a pas l'impérium, on n'a pas le contrôle monétaire d'abord. C'est ça le plus grand problème, comme on l'a dit ici. Cette situation n'a pas affecté seulement la population. Affecte la région des Grands Lacs et affecte le monde entier. C'est Goma là que vous voyez. C'était déjà une plaque tournante d'affaires au niveau mondial. C'était la deuxième destination dans ce pays et même une destination importante du monde. Vous avez vu les chefs qatariens s'impliquer dans l'affaire. Il y a des avions comme Ethiopian, qui atterrissait à Goma et qui engageait les gens. Jumbo Jet avec les Kenyans. Il y avait Rwandair qui atterrissait là où les Qataris ont des parts. Donc ça touche tout le monde. Et que donc la solution doit être rapidement trouvée. On ne peut pas faire des complaisances en disant on va trouver la solution. Alors qu'on n'a pas la manœuvre de la solution. Et que donc la simple solution à trouver, c'est de faire vite pour que la paix revienne et que cette population accède encore à tous les biens de première nécessité et même aux capitaux.
On va aller à Béni cette fois-ci pour écouter cet autre auditeur qui nous appelle. Hein.
Maître Fabrice Ambili, depuis la ville de Béni, au Nord Kivu. La situation de Goma et Bukavu reste très préoccupante. Personnellement, ayant une famille sur place, je constate que l'occupation de ces villes par les rebelles de l'AFC M23 a plongé les habitants dans une grande détresse. Surtout avec l'économie locale qui est devenue presque à l'arrêt, les banques restent fermées, les échanges commerciaux sont bloqués et l'argent ne circule plus comme avant. Je pense que les conséquences sont visibles, la vie devient de plus en plus chère, les produits de première nécessité manquent et beaucoup de familles peinent à survivre. Les commerçants, artisans et travailleurs n'en parlent pas, ils souffrent du manque d'opportunités. Cette crise renforce vraiment la pauvreté et l'insécurité alimentaire. Donc nous pensons qu'il est plus qu'urgent que cette situation prenne fait. Les habitants de Goma et Bukavu ont droit à une vie normale avec un accès aux services de base et à une économie stable. La communauté internationale et les dirigeants congolais doivent agir rapidement possible, le plus tôt possible en tout cas pour ramener la paix et permettre aux populations de retrouver une vie digne.
Professeur, soyez bref.
Oui, je vais essayer. Je comprends et l'intervenant a tout à fait raison, et même l'intervenant d'avant, mais je sais que je ne me fais pas toujours aimer par certaines réactions. Vous savez, je suis motivateur, coach et entrepreneur. Et sous cet angle-là, je demanderai à tout le monde de comprendre que nous devons transformer cette situation terrible en une grande opportunité pour l'économie congolaise. Je répète, je sais que je vais mal me faire comprendre, mais je répète, cette situation dangereuse, macabre, où nous perdons presque tout, devait nous réveiller. commençant par le peuple congolais lui-même quand il vote et quand il applaudit tous ces gens qui l'applaudissent. C'est de ça qu'il s'agit. Quand vous les applaudissez, très bien. C'est très bien de les applaudir. Et voilà les conséquences. Passant effectivement par les dirigeants, comme on l'a dit. Quel type de dirigeants nous avons? Quel type d'élite nous avons, effectivement? Parce qu'on dit gouverner, se prévoir. Depuis que nous proposons, depuis Bounagana, avant Bounagana, l'économie des guerres, quelles sont, effectivement, les mesures qui ont été prises pour favoriser l'économie, effectivement, et de Goma, et de Bukavu, parce que, et de Bounagana? Depuis qu'on a demandé qu'effectivement qu'on pouvait avoir des moratoires, on pouvait suspendre des taxes, etc. Parce que les gens sont en train de mourir matin, ils disent, qu'est-ce qui s'est passé? Quelle est la grande décision nécessaire qui a été prise pour que ce qui nous arrive ne nous arrive pas? Gouverner, se prévoir, nous sommes en train de le répéter. Ce qui fait que moi, je reste convaincu qu'avec notre philosophie Kujite Gemea, Tomilu Kela Tuso Sangye Mositudji Kebela, l'article 5 de la Constitution démontrant effectivement que c'est le peuple qui est le souverain premier, le peuple doit être capable de se prendre en charge. Je précise que les autorités font partie du peuple. N'est-ce pas? Et ils ne représentent que le peuple. Je pense qu'on devait ouvrir les yeux et le bon. On prend des grandes décisions. Où est-ce qu'on en fait, par exemple, par rapport à l'économie des guerres, que je continue à proposer même maintenant? Parce que, après cette guerre, ça va? Nous devons bien comprendre, même pendant cette guerre, est-ce que vous savez que l'Allemagne s'est développée à cause de la guerre? Ah oui, beaucoup de gens n'en parlaient pas. Beaucoup de pays se sont développés, même les États-Unis. Parce qu'il fallait faire la guerre, il fallait vendre les armes, il fallait avoir des entrées, etc. Donc, la guerre, c'est un point négatif, mais au même moment, un point positif. Ça dépend de la personne qui saisit cette guerre-là. Est-ce que vous savez que les gens se sont créés des milliards de dollars avec Rubaya, ça va, avec des minerais décents, avec des minerais épaules, etc. Mais ils se sont fait beaucoup d'argent. Et où est-ce que nous étions? Seulement des petits commissionnaires qui se sont un peu fait l'argent. Parce qu'on n'a pas pu protéger notre manne. On a eu un des gouvernements, effectivement, qui était en train de dormir. Disant que nous travaillons très bien. Parce qu'à vrai dire, vous savez, hein, quand on est à la mangeoire, on n'écoute plus personne. Hein. Les conseils qu'on peut donner, personne n'écoute plus personne. Même la communauté internationale n'écoute absolument plus personne. Et là, s'il vous plaît, je voulais préciser une chose.
Très rapidement. Hein,
la situation de mort est plus macabre que la situation qu'on appelle économique. Parce que vous ne pouvez pas faire l'économie pour des morts. Si les gens sont en train de mourir, c'est l'urgence des urgences. Les tueries doivent cesser, on doit avoir la paix. Donc on doit se battre pour que le Congo soit un pays libre. Et puis deuxièmement, on va parler de l'économie. Parce que vous allez parler de quelle est l'économie des 10 millions de morts. Ces 10 millions de morts, est-ce qu'ils ont produit? Est-ce qu'ils ont consommé? Est-ce qu'ils ont distribué quoi que ce soit? Rien. C'est-à-dire que la priorisation nous démontre à suffisance que l'Afrique et le monde entier, et surtout la République démocratique du Congo, on doit comprendre qu'on doit faire la paix. Et ce peuple est capable de se nourrir, n'a pas besoin des hommes.
On va prendre très rapidement ce dernier auditeur qui nous appelle depuis Chikapa, dans la province du Kasaï.
Bonsoir la radio Okapi, bonsoir tous les auditeurs de la radio Okapi, c'est monsieur Pierre Kangombe depuis la province du Kasai-Tchikapa. Concernant l'analyse sur la situation à l'est du pays, premièrement je félicite le gouvernement congolais pour sa lutte diplomatique, le pouvoir d'achat émanant de la politique monétaire internationale. Goma est la capitale économique à l'est du pays. Premièrement, la fermeture des entités de l'État congolais au service des taxes dans la ville, surtout les frontières qui entourent Goma est l'une des causes qui fait perdre cette partie du pays de pouvoir d'achat. Deuxièmement, la récolte monétaire des taxations par les rebelles de M23 AFC, c'est aussi l'une des causes parce que tout ce que fait le M23 AFC n'entre pas au trésor public du pays.
Fabrice Ngabo, réaction. Brève, hein, très brève réaction. Fabrice Ngabo, ouvrez votre micro. Est-ce que vous êtes en ligne?
Allô, madame, vous me suivez?
Oui, on vous suit.
Je disais donc qu'en partie, l'auditeur a raison. Mais pour moi, tellement la situation que nous vivons pouvait être évitée, je pense plutôt qu'il se relance le débat sur la qualité d'homme, la qualité d'acteur politique que nous avons dans ce pays aujourd'hui. Et le professeur Dadi Salé l'a effleuré aussi, c'est que à un moment, le peuple doit prendre ses responsabilités pour se dire qui est ce citoyen que nous désignons pour nous représenter à tel ou tel autre niveau. Pas
pense que, madame, les Congolais sont en train de vivre une humiliation incompréhensible. Dans ce pays, nous avons tout. Nous avons le potentiel qu'il faut pour assurer le bonheur au peuple. Mais on a simplement manqué les personnes pour décider sur le sort des Congolais. Il est inimaginable qu'un tout petit pays comme le Rwanda, qui est faible naturellement vis-à-vis du géant Congo sur tous les plans, naturellement, il est impossible de continuer à voir ce pays nous mettre à genoux. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire?
Justement, c'est la question. C'est la question que je voudrais vous poser, Fabrice Gambo, parce que nous sommes vraiment à la fin de l'émission. Hein. Soyez vraiment concis dans vos réponses. Quelles sont les mesures urgentes à prendre pour relancer l'économie locale et atténuer la précarité? Très rapidement, s'il vous plaît.
La mesure urgente, madame, consiste d'abord par rétablir la paix. Il n'y a pas de développement économique sans paix. C'est pourquoi d'ailleurs, vous n'avez pas vu les banques et les autres grandes entreprises ouvrir. Il faut d'abord rétablir la paix. Comment rétablir la paix? Il faut que le gouvernement saisisse l'occasion de dialogue. Il ne faut pas passer par le dos de la cuillère. Le gouvernement est dans une situation de faiblesse. Il faut qu'il dialogue avec ceux qui ont pris les armes. Ça, c'est un. Des deux, à moyen et à long terme, il faut que le gouvernement investisse les moyens pour créer une nouvelle armée. La RDC a besoin d'une nouvelle armée, une nouvelle entité qui a de nouveaux hommes avec une nouvelle idéologie, avec une nouvelle formation et avec des moyens conséquents.
Troisièmement,
enfin pour terminer, troisièmement, lorsque la sécurité de l'État sera rétablie sur l'ensemble du pays, eh bien, le gouvernement qui sera là doit faire un effort pour redistribuer les revenus du pays avec la population en termes d'investissement dans les infrastructures, madame. La question des routes se pose encore dans cette guerre avec beaucoup d'acuité. Ce n'est pas un des intervenants vous a dit que depuis longtemps, avant la guerre déjà, il n'y avait pas de route en bon état entre Goma et Bukavu. C'est une situation anormale. Et donc, moi je pense, je résume ma pensée en disant ceci. Pour l'instant, il faut rétablir la sécurité par la dialogue, par le dialogue, parce que deuxièmement, il faut obligatoirement que le gouvernement qui sera là investisse considérablement dans l'armée. Et troisièmement, il faut obligatoirement investir des moyens dans les infrastructures.
Merci. Et enfin, Fabrice Ngabo, on vous a suivi. Placide Zilamba, comment favoriser le retour des activités économiques et la réouverture des banques et institutions financières? Comment favoriser
c'est mettre en place, madame, ou appliquer scrupuleusement la feuille de route du déploiement de la force et à ses SADC pour restaurer l'autorité de l'État rapidement sur ces zones-là, afin que toutes les activités reprennent. Les banquiers ne seront pas rassurés par des discours. C'est par la garantie de l'autorité de l'État. Et que donc, nous sommes en attente rapide de la mise en place de la force conjointe et à ses SADC pour qu'elle se déploie rapidement, pas dans des délais qu'ils sont en train de vanter 30 jours, 120 jours, non, rapidement, pour que l'autorité de l'État se rétablisse et que cette population puisse avoir un souffle de soulagement. L'idée, c'est d'avoir des programmes spécifiques de relèvement économique dans toutes ces zones-là. Ces populations doivent bénéficier de la compassion du monde entier, même des peuples congolais, à travers des programmes de relèvement économique pour les aider à faire face au choc qu'elles ont subi. Imaginez-vous toutes les entreprises pillées et que donc il faut quand même des programmes pour de tels genres d'opérateurs économiques, et même pour des populations de milliers ruraux. C'est ce qu'il a dit, c'est refaire la gouvernance. Faire une gouvernance adaptée aux attentes du Congo et non une gouvernance attentiste aux Congolais.
Merci. Merci Placide Zilamba, professeur Dadi Salé.
C'est une grande opportunité pour le président de la République, Félix Tshisekedi, parce qu'il peut faire un leadership de l'unité, c'est-à-dire effectivement cesser avec les gens des 1 plus 4 et trouver des leaders congolais qui aiment cette nation. Il a cette grande opportunité, mais jusque-là, ben, il ne la saisit pas. Nous espérons qu'il va la saisir cette fois-ci avec ses gouvernements. Deuxièmement, il peut rapidement, à court terme, demander à l'Assemblée qui doit répondre, l'Assemblée nationale, pour que nous puissions avoir un budget, une loi financière de guerre, pour effectivement résoudre, comme Placide Lamba l'a dit. Ça va nous permettre d'avoir une économie de guerre qui va effectivement impliquer tout ce que nous sommes en train de dire et faciliter effectivement l'économie de Goma et de partout ailleurs de se reprendre. Et des investissements de guerre. Donc au fond, c'est tout un plan que nous avons proposé depuis très longtemps. Merci. Comme nous sommes en train de le dire, on ne sait pas si on les écoute ou bien s'il y a des gens qui s'amusent à penser qu'ils ont toujours raison sans que ça résolve quelque chose sur
place. Merci professeur Jadis Salé, Dialogue en Congolais. C'est fini pour ce soir. Guy Maté, Tiano Lissumbu et Bertin Kassiama, voilà, Kassiama m'ont aidé à préparer ce magazine. Jean-Claude Onciala et Polydor Basunga étaient à la mise en onde derrière les caméras. Jonathan Fonani, Clément Chimanga et Hervé Vukia. Présentation et coordination, Kéline Couté sur la supervision de Martin, c'est bon, Jangwe. Bonne suite de programme sur la fréquence de la paix. Mais vous pouvez retrouver les temps forts de cette émission sur les comptes officiels Instagram et TikTok de Radio Okapi. N'hésitez pas d'aimer, de partager, mais surtout de vous abonner. Au revoir.